comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé nous emmène à Porto, au Portugal, où s'est tenue, entre le 28 avril et le 1er mai dernier, la 26e conférence mondiale sur la réduction des risques. Désignée sous le sigle RDR, la politique de réduction des risques est une démarche de santé publique pragmatique pour limiter, voire éradiquer, les risques liés à la consommation de drogue. Développée au cours des années 80, dans le contexte de l'épidémie de VIH chez les usagers de drogues injectables, en l'occurrence d'héroïne, eh bien la RDR a progressivement intégré d'autres registres d'action pour tenter de stopper la transmission de maladies comme les hépatites, la syphilis ou la tuberculose. Et en 2001, un pays comme le Portugal est allé encore plus loin en dépénalisant l'usage des drogues, considérant que l'on ne pouvait pas mener une politique efficace et ambitieuse de réduction des risques tout en continuant à criminaliser l'usage de ces produits. Cette décision, saluée par les experts de la RDR, est loin de faire l'unanimité en Europe et dans le monde. Près de 20 ans après, quels en sont les résultats? Les pathologies liées à la consommation de produits stupéfiants ont-elles diminué? Igor Strauss est allé à la rencontre d'experts et surtout des usagers de drogue pour évaluer la situation et comprendre les attentes des uns et des autres dans ce pays du sud de l'Europe, souvent cité à titre d'exemple pour sa politique en matière de toxicomanie. Voici son reportage.
Une bonne politique de réduction des risques, c'est une politique qui est capable de créer une liaison entre des personnes qui usent des drogues et des personnes qui travaillent dans le champ des drogues. Ça veut dire que c'est une bonne politique de drogue, c'est une opportunité pour établir un dialogue entre les gens qui souffrent tous les jours, les conséquences de l'usage de drogue, une condition de misère, une condition de pauvreté, une condition de maladie. Cette opportunité d'établir un dialogue avec ces gens et les professionnels qui peut-être pour avoir une parole, qui peut-être pour avoir un outil, qui peut-être pour avoir une méthodologie, pour créer un accès de ces gens au système de santé. Ça, c'est une forme de voir une bonne politique de réduction de risque. L'autre façon de voir la réduction de risque, pour moi, c'est la plus forte peut-être, c'est de donner à ceux qui sont toujours instrumentalisés par les politiques, par la police, par les psychologues, je suis psychologue, par les médecins, donner à ceux-là une opportunité d'avoir une voix. Ça veut dire, pour moi, une vraie politique de réduction des risques, c'est créer un projet de vie, de créer un espace de développement, d'un développement personnel.
C'était José Queiroz, psychologue et directeur exécutif de l'ABDES, l'agence Piaget pour le développement, une ONG portugaise qui co-organisait la conférence internationale sur la réduction des risques à Porto. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors avant de revenir sur la situation au Portugal, comment est-ce que vous expliquez que de nombreux États tardent à mettre en place une politique de réduction des risques, alors que les résultats pour limiter la transmission d'infections comme le VIH ou les hépatites, eh bien ces effets sont prouvés.
Eh bien, tout d'abord en raison d'une mauvaise interprétation de ce qu'est la réduction des risques. J'ai travaillé sur le sujet au Sénégal, en Tanzanie et au Kenya, trois pays qui l'ont adopté difficilement et qui ont été confrontés au même problème. La distribution et l'échange de seringues, par exemple, qui est essentiel pour ne pas que les toxicomanes utilisent la même seringue et donc se transmettent le VIH ou les hépatites, eh bien est souvent considéré comme de l'incitation à la consommation. Ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. Et puis, bien, la réduction des risques se réclame d'une démarche de santé publique pragmatique, limiter les risques de transmission de maladies, sans nécessairement avoir comme premier objectif le sevrage et l'abstinence.
Le sevrage et l'abstinence, qui ne sont pas les objectifs premiers, c'est bien la prévention des contaminations qui prime. Cela n'empêche pas la mise en place des programmes de substitution à l'héroïne, avec bien sûr la méthadone.
Oui, mais cela ne fonctionne que dans une démarche volontaire. L'usager usagers doit-on avoir envie ?
Alors, lorsque l'on parle des usagers de drogue, Igor, il s'agit de populations qui sont, dans toutes les régions du monde, stigmatisées, marginalisées. Alors, est-ce que cela aussi vient expliquer le manque de volonté politique pour mener à bien la politique de réduction des risques ?
Bah, tout à fait. On peut même parler de double ou triple stigmatisation, puisque bien souvent, les usagers de drogue commettent des délits ou sont forcés de s'adonner à la prostitution, ce qui les exclut davantage de la population.
Alors Igor, maintenant on va s'intéresser à la situation du Portugal. Pour comprendre ce que vivent les usagers, observer leurs conditions de vie, leurs besoins, comprendre pourquoi ils sont tombés aussi dans la drogue, vous avez suivi Sergio Rodriguez, ancien usager, il a 43 ans. Il vous a conduit dans des squats de toxicomanes qui ont des parcours de vie d'une violence incroyable.
Ici, on est dans un quartier de Porto qui s'appelle le Cercle de Porto. Et il y a beaucoup de trafic et de gens qui consomment de la drogue. Et là, je vous emmène dans les vieilles maisons où les gens consomment de la drogue.
Alors là, pour décrire, on est dans Porto, mais ça a fait un petit peu banlieue. Des petits pavillons, là, un énorme terrain de football. La vieille maison, c'est des ruines, et là, on va monter un petit peu dans les ruines. Vous connaissez tout le monde ici ?
Yes, I know most everyone because
oui, je connais quasiment tout le monde. J'ai habité ici pendant 30 ans et j'ai commencé à me droguer dans ce quartier. Donc oui, je connais la plupart des gens.
I know most of the people.
Olha, só, como é que se chama? Esqueci o teu nome. Só, opa, se não te importas para o pessoal tirar uma fotografia ou outra. Está bem?
Bom dia.
Bom dia.
Tudo
boa
bom?
Tarde, boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Okay, boa tarde. Está-se tudo bem?
Tudo bem. Tudo bem.
Bom dia, não, boa tarde.
Long time, I know that people...
Avant, il y avait des toxicomanes qui vivaient ici quand il y avait des murs. Mais maintenant, il n'y a plus de toit.
Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est des ruines. Ils ont mis des bâches en plastique pour s'abriter de la pluie.
And people go to smoking there.
Oui, et ici, les gens fument du crack et de la cocaïne. Et là, il y a ceux qui s'injectent.
Ah là, il y a une petite salle où... Ah, c'est sale partout, il y a des...
Vous voyez une seringue. Quelqu'un a laissé une seringue.
Il y a les seringues en haut, cachées en haut, du mur. Alors vous, ça vous fait quoi de revenir dans des lieux comme ça ?
Rien de spécial. Je n'ai aucune envie de consommer. Mais je suis content de revoir les gens qui sont encore en vie.
Et ici, tous les usagers ici bénéficient du programme de réduction des risques. Ils ont tous des seringues propres, des choses comme ça.
Oui, tous les usagers utilisent des seringues propres, car il y a des équipes mobiles qui viennent à côté d'ici pour échanger les seringues.
On peut parler avec la dame, là ? Elle a la petite pipe à la main.
Non, anglais,
non.
Boa tarde.
Boa tarde.
Alors, là, vous avez la pipe à la main, ça, c'est quoi, ça ?
Eh, un caneco.
It's a pipe for smoke crack.
C'est une pipe à crack.
Si, non consomme heroïne à 28 ans.
28 years is not using.
Ça fait 28 ans qu'elle ne touche plus à l'héroïne car elle est dans le programme méthadone.
And now don't smoke heroin.
Elle ne fume plus d'héroïne, mais elle fume du crack parce que la méthadone permet seulement d'arrêter l'héroïne.
We don't have a medication.
Mais il n'y a pas de médicament pour sevrer du crack.
Substitution crack. Yeah.
Et vous fumez beaucoup ?
Fumez muito crack.
Oui.
E eu sou dependente do crack.
Elle est dépendante au crack.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez du programme de réduction des risques ?
Acho que é programme excelente e devia dar continuidade.
It's an excellent program, but
c'est un excellent programme, mais il faudrait que les équipes mobiles viennent plus souvent, car quand ils ne sont pas là, on ne peut pas échanger le matériel. Mais c'est un excellent programme.
Et vous avez déjà essayé d'arrêter le crack ?
Parei 4 ans. Experimentei a primeira vez, nunca mais parei.
Is already stopped one time, 4 years, but after that.
Oui, elle a arrêté pendant 4 ans et puis elle a repris et plus jamais arrêté de fumer du crack.
Using crack.
Alors là, madame, je vois donc vous avez plus de dents, mais est-ce que vous avez des problèmes de santé liés à la drogue?
Hépatite, non, sou imune à hépatite C.
Non, Elena n'a pas d'hépatite, elle est négative.
Obrigado, senhora.
Nada.
I know Alina a long time ago.
30 anos.
30 anos.
Je connais Alina depuis 30 ans.
E o que é que tu achas de eu ter visto-me aqui a consumir? E o que é que tu achas mesmo agora assim aqui?
Acho que nunca imaginava ver-te assim.
I ask her what she think about me.
Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de moi parce qu'elle m'a vu consommer de la drogue ici.
She tell me is never imagined that you can stay.
Et elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que je puisse arrêter.
Mais justement, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous, physiquement, vous n'avez aucun problème. On ne peut pas imaginer que vous avez utilisé de la drogue, alors que Hélène, elle est très marquée. Qu'est-ce que ça vous fait, ça?
Oui, c'est vrai. Quand je consommais de la drogue, les gens savaient en me regardant que j'étais toxicomane. Parce que l'apparence change beaucoup quand on consomme. Et je suis très fier de moi. Je suis content d'être encore en vie et j'aime que les gens se disent « Ah, si tu as réussi à arrêter, je peux le faire aussi. C'est bien. »
Justement, sur l'ensemble des usagers que vous étiez avant, combien d'entre vous ont arrêté? Vous avez une petite idée?
Most of them continue.
La plupart continuent.
Some already died.
Certains sont déjà morts.
And,
et je peux compter sur les doigts d'une seule main les gens comme moi. Il y en a peu. Il y a plus de gens qui consomment encore.
It's not so much. There's more people still using. Yeah.
Fala inglês?
Sim.
Fala inglês? Pois falas, tens que dizer tudo o que tens a dizer.
Claro.
Vê se não depois há uma coisita. Entendeste?
Ok, my name is Kiki.
Je m'appelle Kiki et je suis allemande.
Et qu'est-ce qui vous a amené ici au Portugal, à Porto?
I was in Germany and I have a boyfriend.
Je vivais en Allemagne avec mon petit ami et il m'a emmené au Portugal.
I think Portugal is very nice.
Je pensais que le Portugal était magnifique avec ses plages et la mer, mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert des endroits comme ça et ça m'a rendu triste. Je prenais déjà de la drogue en Allemagne et j'ai continué au Portugal. Je consomme de la cocaïne et je suis sous méthadone.
Méthadone, c'est pour arrêter l'héroïne. Donc vous prenez plus d'héroïne?
Non, plus d'héroïne. Que du crack et du hashish, selon l'argent que j'ai.
Et justement, comment vous faites pour avoir de l'argent?
Je travaille dans la rue. Je suis prostituée. Au début, c'était terrible. Et puis, quand tu travailles tous les jours avec les hommes dans la rue, tu deviens froide. Et maintenant, ça ne me fait plus rien. Je le fais. C'est mon travail.
Et ça fait combien de temps que c'est votre travail?
5 ou 6 ans.
Est-ce que vous avez déjà fait des tests du sida, des hépatites? Est-ce que vous êtes suivi pour ça ou pas?
Oui, je les ai faits. Je suis séropositive et j'ai aussi une hépatite C.
Et ça, vous pensez que c'est votre métier de prostituée qui a fait ça?
Oui, c'est à cause de la prostitution. Un jour, un homme m'a forcé, il ne m'a pas payé, il m'a violé et il n'a pas mis de préservatif. Après ça, j'ai fait le test et il était positif.
Est-ce que vous êtes sous traitement, justement?
Je dois aller en ville tous les jours pour prendre ma méthadone et mes antirétroviraux.
Et c'est pas trop contraignant?
Yes, it's a prison.
Si, c'est une prison.
Et l'Allemagne vous manque pas trop, ça va?
Oh, many. Germany is another world.
Ah oui, énormément. L'Allemagne, c'est un autre monde. Là-bas, on vous aide davantage. Il y a plus d'argent, plus de confort. Ici, au Portugal, on n'a rien.
You have nothing.
Alors pourquoi vous ne retournez pas en Allemagne?
Parce que j'ai des problèmes avec la police, à cause du trafic.
Ah, et c'est pour ça que vous avez fui l'Allemagne? C'est parce que vous étiez recherché pour trafic de drogue?
Oui, j'ai déjà fait 5 ans de prison en Allemagne pour trafic et quand je suis sortie, j'ai encore eu des problèmes avec la drogue et je suis venue au Portugal. Mais je ne pense pas que je rentrerai parce que j'ai quitté ma famille il y a 10 ans. C'est long et j'ai 2 enfants qui ne me connaissent pas et je ne veux pas les perturber en rentrant. Donc je vais rester ici, au Portugal.
Vous avez déjà essayé d'arrêter le crack ou pas ?
J'ai essayé d'arrêter le crack. Je suis allée 3 fois en cure de désintoxication en Allemagne pendant 9 mois. C'était très bien, je me sentais bien, mais dès que je suis sortie de thérapie, j'ai replongé. C'est ça mon problème. Et maintenant, ça fait tellement longtemps que je suis dans la drogue que je ne vois pas comment m'en sortir.
Et vous vous rappelez dans quelles circonstances vous avez commencé ?
Ma grand-mère était comme ma mère. Elle s'occupait de moi et me donnait de l'amour et elle est morte dans un accident. Ça m'a bouleversée, j'avais 12 ans. Et la première fois que j'ai pris de la drogue, c'était de l'héroïne. Et je l'ai injectée. J'avais 12 ans, j'étais une enfant. Et puis après, pendant 15 ans, j'ai fait du trafic pour l'argent. Et c'est comme ça que j'ai passé ma vie dans le monde de la drogue.
And then with 50 years I traffico drugs for another persons because of money, and so my life go in the world of the drugs.
Obrigado.
Obrigado, eu.
Danke schön.
Bitte schön.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes au Portugal pour parler de la réduction des risques, une politique de santé publique pour limiter les risques de transmission de maladies comme le VIH associé à la consommation de drogue. Considéré par certains comme un modèle en la matière, le Portugal est allé encore plus loin en 2001 en dépénalisant l'usage des drogues. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision, loin de faire l'unanimité encore aujourd'hui dans de nombreux pays, y compris en France ? Explication avec João Goulart, le coordinateur national pour la drogue au Portugal. Tout commence après la révolution des œillets de 1974 avec la chute du régime dictatorial de Salazar.
Vous savez, le début des problèmes des drogues au Portugal sont arrivés plus tard que à la majorité des pays européens, après notre révolution démocratique. Et nous sommes vite arrivés à une situation catastrophique, surtout l'épidémie de l'héroïne, de l'usage d'héroïne. Pendant les années 90, c'était vraiment catastrophique. 5000 utilisateurs d'héroïne, surtout intraveineux. Et le sida est arrivé pour compliquer les choses. Beaucoup de morts par surdose. Nous avons décidé de mettre en marche une stratégie basée en prévention et l'offre de traitement pour tous ceux qui en voulaient, et un conjoint de politiques de réduction des risques. Nous avons initié la distribution de seringues et aiguilles en 93. Puis là, nous avons noté la chute des infections par le sida. Et cela nous a amené à développer d'autres réponses de réduction des risques qui accompagnent l'offre de traitement et de réintégration sociale. Même là, nous avons noté qu'un cadre juridique de criminalisation, cela ne facilitait pas l'approche des utilisateurs au système de santé qui était monté. Et alors, nous avons proposé la décriminalisation de la consommation de toutes les substances. Et depuis là, l'évolution des indicateurs disponibles est d'un mode général favorable. La chute des infections par le sida et des hépatites, la chute des surdoses, même de la petite criminalité amenée par l'usage des drogues. Et cela est arrivé dès 2001, la stratégie a été mise en place. avec une évolution globalement positive, même si dans des années plus récentes, surtout en conséquence de la crise financière et sociale que nous avons subie, on a noté une augmentation des difficultés et du nombre d'utilisateurs problématiques encore, soit par des rechutes des anciens utilisateurs, par de nouveaux modes d'utilisation des drogues.
La toxicomanie est un sujet très sensible. Oui. Comment êtes-vous parvenu ici au Portugal à le faire accepter au niveau politique et comment c'est perçu par la population ?
Vous savez, comme je l'expliquais au début, le début des problèmes des drogues est arrivé très soudain et exploité parmi tous les groupes sociaux. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait seulement entre les groupes les plus défavorisés, des minorités, soit. Mais tout le monde, il est arrivé à toutes les familles d'avoir des problèmes de toxicomanie. Et ça a changé un peu le point de vue des gens. On peut imaginer une mère de famille, moyenne classe, par exemple, bon, mon fils n'est pas un criminel, il est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ça a tourné un peu la représentation sociale de l'usage des drogues. Et ça a tourné possible de la proposition de décriminalisation des drogues. À mon avis, c'est ça, cette transversalité qui a été en faveur du passage des politiques humaines et pragmatiques comme nous l'avons fait.
Merci beaucoup.
Merci. Merci, c'était un plaisir.
Eu não podia faire tout à nenhum daqueles que não tava comigo. Eu não gosto de fama, eu não quis aparecer, eu não quero esse brilho. Eu não quis essas fotos, não quis os abraços, só queria curtir. Tenho a selva no sangue, sou bicho do mato, quero estar sozinho. Por isso eu vou pro sky, yeah, yeah. Eu e a minha bully fly, yeah, yeah. Sozinho no meu bar, yeah, yeah.
Vemos alguém em benção ao God. Todos focos no work, sem dar atenção a fotos. Tô no black, saí da favela, mas tenho vista pro morro. Conquista tá perto, não me iludo com pitas pra fuck. Fama não é nada sem guita no pocket. Por isso um hit de milhões chaba pouca. Razão deste esforço e descontentamento. Em contentamento, uma vibe que me permita estar ótimo. Seja promisso como a love vibe. We go fly, os meus guys, no meu bairro. O meu smile nunca sai lá no sky. Eu tenho motivos que me fazem chorar todos os dias. Mas optei por me fazerem brilhar todos os dias. Basta de uma família, sangria, pulo uma birra. Música faz a magia, sentes a vibe dos Venus.
Priorité Santé. Reportage.
Igor Strauss, alors au cours de la 26e conférence mondiale sur la réduction des risques qui s'est donc tenue à Porto, au Portugal, entre le 28 avril et le 1er mai dernier, vous avez eu l'occasion de rencontrer Ricardo Batista Leite, médecin, député portugais et président de Unite, un réseau international de parlementaires qui défendent la dépénalisation des drogues.
Le manque de volonté politique envers les programmes de réduction des risques peut s'expliquer par le choix de mener une guerre contre la drogue, qui a été un échec. L'idée, c'est qu'on ne peut pas offrir de service pour quelque chose qui est illégal. Et cela n'a fait qu'augmenter les indicateurs concernant le VIH, les hépatites C. Cela a augmenté la criminalité, notamment parmi les personnes qui utilisent de la drogue. Mais le modèle portugais a réussi à prouver qu'en ayant une approche sanitaire, en dépénalisant l'usage des drogues et en apportant un ensemble de solutions à travers notre service de santé publique et le programme de réduction des risques, on était capable d'être plus efficace en termes de dissuasion, donc de prévention. D'ailleurs, nous avons moins de consommateurs que les autres pays en Europe et nous sommes également plus efficaces pour maintenir les gens en vie avec de meilleurs indicateurs de santé. Donc s'il subsiste encore des doutes, il est important de montrer de bons exemples, comme ce qui se passe ici au Portugal. Et Unite, en tant que réseau international de parlementaires, travaille dans ce sens pour partager ces expériences. Et je crois que les résistances viennent à chaque fois d'un manque de connaissances et de compréhension de ce qu'est vraiment la réduction des risques. Donc il nous faut vraiment surmonter ces barrières.
Est-ce que vous pensez du coup que la dépénalisation des drogues est un préalable à une bonne politique de réduction des risques ?
La dépénalisation est une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. La dépénalisation en soi est importante car nous n'avons rien à gagner à mettre des usagers de drogue en prison. C'est prouvé. Mais il est également clair que la dépénalisation seule ne peut pas résoudre le problème. Elle doit accompagner les services de réduction des risques et les autres services de santé, de la prévention au traitement, pour avoir un impact plus important sur la mortalité. Et dans ce sens, la réduction des risques n'a pas besoin de la dépénalisation. Donc s'il n'y a pas d'accord au Parlement pour faire adopter la dépénalisation, cela ne doit pas les empêcher d'adopter un programme d'échange de seringues, car cela sauve des vies. Ça ne doit pas les empêcher d'adopter un programme de substitution à la méthadone, car cela sauve également des vies. Mais combiner le tout permet d'avoir plus d'impact, pas seulement en sauvant les vies, mais pour toute la société. Et si on commence à mener des politiques basées sur des faits scientifiques, alors on pourra changer les discours qu'on entend en Europe et dans le reste du monde.
Igor Strauss, la dépénalisation des drogues est un sujet sensible qui divise la classe politique dans de nombreux pays, dont la France.
Oui, alors même que des personnalités telles que Michel Kazatskin de la Commission globale, qui était présent d'ailleurs à la conférence de Porto, et de nombreuses ONG comme Médecins du Monde ou Aide, estiment que systématiser la sanction au détriment de l'accompagnement et de l'orientation vers le soin, eh bien, ne constitue en rien une avancée. Pour eux, il serait plus responsable d'assumer une réelle dépénalisation, comme l'ont fait la Norvège ou le Portugal. D'ailleurs, dès 2017, l'Organisation mondiale de la santé et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime invitaient l'ensemble des États membres à mettre un terme à la pénalisation de l'usage des drogues, sans grand résultat pour l'instant.
Igor Strauss, on retourne maintenant à Porto. On vous retrouve avec Raquel Rebello, la responsable de la réduction des risques pour l'ONG Médecins du Monde sur place.
On a une équipe mobile et notre objectif est de faire du dépistage pour le sida, les hépatites et la syphilis. Mais on fait aussi un travail de réduction des risques parce que les trois quarts de nos patients sont des usagers de drogue.
Il y a beaucoup d'usagers de drogue ici à Porto.
On pense qu'il y a entre 3000 et 5000 usagers de drogue ici à Porto. Et là, on ne parle que des usagers de cocaïne et d'héroïne. Parce que si on comptait les autres produits, il y en aurait plus. Mais les choses sont en train de changer. Il y a 5 ou 6 ans, les usagers consommaient surtout de l'héroïne. Mais aujourd'hui, on a des problèmes avec d'autres substances, comme la cocaïne et les nouvelles drogues qui arrivent sur le marché. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a plus ou moins de drogués. Je n'aime pas voir les choses comme cela. Je pense que c'est quelque chose qui existait avant, qui existe encore aujourd'hui et qui est en train de changer. Et ma préoccupation, c'est qu'on n'arrive pas à suivre. On n'est pas raccord avec la situation. Que fait-on pour la cocaïne dans la réduction des risques? Rien. On se focalise sur l'héroïne, alors que la plupart des toxicomanes n'en utilisent plus. On travaille encore comme on le faisait il y a 10 ans. On donne des kits pour l'échange des seringues, alors qu'il n'y a pas tant d'injecteurs que cela. En revanche, on a un gros problème avec la tuberculose à Porto. Mais on n'a pas de pipe gratuite pour la cocaïne. Nous, ONG, on n'a pas de pipe gratuite, alors que ça fait 6 ans qu'on en réclame.
We are waiting for pipes for free more than 6 years.
Et pourquoi? Comment ça se fait que vous n'ayez pas de pipe gratuite?
I cannot give you the answer because I'm asking this.
Je ne peux pas vous répondre puisque je pose moi-même cette question en permanence. On me dit on verra, nous allons faire un projet pilote, nous allons faire ceci et cela, mais on n'a toujours rien.
And the problem is that.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas diviser un individu. Par contre, les bailleurs, eux, ils divisent. Donc ils paient pour le sida. Mais les pipes n'empêchent pas d'avoir le sida. Donc on n'en achète pas. Mais c'est un problème pour la tuberculose. Et il y a des toxicomanes qui fument et qui s'injectent. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ils se séparent. Donc, on a des interventions séparées.
Let's go.
On y va ?
Let's go. Donc, vous avez un vieux camion qui vous sert de bureau. C'est bien ça, comme outil de travail ?
Yes, that's the only way that we can
Oui, c'est le seul moyen d'atteindre les personnes les plus démunies, les populations clés, comme on dit.
Não, coisa, a mochila. Não te deixe turbar.
Drive.
Yeah?
Que é guarda de saída.
Então, eu faço uma pica no dedo, ok? Caramba!
Nunca pica, deixa
nunca é fácil. Vamos lá ver se
agora. Não, ela pica o cocêndio.
Alors là, vous avez piqué, il y a une petite goutte de sang qui apparaît. Ça, c'est un test VIH ou c'est un quoi comme test?
Test de VIH.
Il y a un test pour le VIH, pour la syphilis et les hépatites B et C.
Ah, donc c'est ça, vous en mettez. Il y a quatre tests différents.
Si.
D'accord. Et monsieur, pourquoi vous voulez vous faire tester, vous?
Para que está aqui a fazer o rastreio? É para saber da sua saúde?
Sim.
He wants to know about the...
Il veut connaître son statut.
So he's doing the test.
Et vous êtes inquiet?
Se eu chegasse à Baclose, lamentava-me, dizia, olha, viste, não dou a ninguém. Ele dizia.
Certo.
Mas essas badalhocas que é assim, não se importa de desafetar os amigos. Ou vice-versa. Ou,
he's worried about his health because...
Il est inquiet à propos de sa santé parce qu'il partage son matériel pour la drogue.
To consume drug.
Dá tudo negativo, ok? Esta linha C tem sempre que aparecer porque significa que o teste está a funcionar bem e que foi bem feito. Portanto, como não aparece uma segunda linha, ou aqui no 2 ou no 1, dá tudo negativo, está bem?
Estou bem, estou. E vou fumar mais caneco nenhum.
Da próxima vez que alguém fumar num caneco, tente não fumar a seguir, tente não partilhar material de consumo.
Porque estas pessoas, muitos deles, eu para mim, estão doentes.
Até para a semana.
Até para a semana, obrigado.
Espera aí, consegue abrir?
Obrigado, está bom.
Nada.
Donc, tous les tests étaient négatifs?
Sim.
Oui.
All the tests.
Bonne nouvelle, alors.
Good news.
Bonne nouvelle.
Et généralement, quelle est la pathologie qui revient le plus souvent?
Nowadays, maybe syphilis.
In this population, syphilis lately is
Avec les usagers de drogue, c'est la syphilis.
Plus que le sida et que les hépatites.
Yes.
Oui.
Oui. Yeah. Normalement, quand on a un sida, on a
syphilis.
Vous avez des questions?
Pourquoi vous venez ici là?
I'm homeless.
Je suis sans abri, donc je m'habille avec ce qu'on me donne. Je mange ce qu'on me donne et je consomme de la drogue toute la journée.
Mais lesquels ? Héroïne, cocaïne ?
Everything that comes with.
Tout ce que je trouve, sauf ce qui pourrait me tuer sur le coup. J'ai commencé directement avec l'héroïne il y a 18 ans et je n'ai jamais arrêté.
Alors c'est quoi la situation d'un toxicomane ici à Porto ? Comment ça se passe ?
I lived in England, in Bristol and London.
J'habite en Angleterre, à Bristol et à Londres, donc je vais comparer avec le Portugal.
At least from what I know. England support the
D'après moi, en Angleterre, on aide mieux les toxicomanes et les sans-abri. Il y a toujours un endroit ouvert où vous pouvez vous reposer, manger et boire quelque chose, être au chaud, changer de vêtements et prendre une douche. Ici, on manque d'endroits pareils. On n'a pas de soutien pour nous permettre de devenir de vrais citoyens. Parce que ce n'est pas facile.
Because it's not easy. Something is always missing.
Il manque toujours quelque chose. On n'a pas d'adresse, donc on ne peut pas demander d'aide. Donc on n'a pas d'argent, donc on doit voler pour acheter de la drogue.
Et justement, est-ce que vous pensez que la politique de réduction des risques, elle est vraiment adaptée aux usagers de drogue ? Ou est-ce que ça ne correspond pas à...
That's what I'm trying to say. It's a great program, the risk reduction.
C'est ce que j'essaye de dire. La réduction des risques est un super programme, mais ça ne sort pas les gens de la rue. Il manque la partie du milieu. On a la réduction des risques, on a les choses supérieures, mais il nous manque l'entre-deux.
Finalement, le plus difficile, c'est l'aide sociale. C'est savoir où dormir, quoi manger, c'est ça ?
Ça, c'est très important pour nous. But we are missing that.
C'est ce qui nous manque, car tout est plein. Moi, je dors dans la rue.
Alors, j'en reviens à la réduction des risques. Pour l'héroïne, donc il y a échange de seringues, méthadone. En revanche, pour le crack, la cocaïne, il n'y a pas de distribution de pipe. Pour les sans-abri, il n'y a pas d'aide forcément au logement. Sachant cela, qu'est-ce que vous pensez de la réduction des risques ? Est-ce que c'est quand même bien ?
C'est bien pour empêcher les épidémies, mais vous restez collé au sol. Même si vous n'avez pas de maladie, comme moi, vous manquez de soutien et c'est ça dont on a besoin, en urgence. Parce que j'ai besoin d'une maison, je veux bien payer un prix symbolique, je ne demande pas qu'on nous donne tout. Je demande un nouveau départ vers la propreté pour sortir de la drogue. Si j'avais cette aide de départ, je pourrais me sortir de la drogue. Même si je n'ai pas cette aide et que je ne sais pas où aller, je vais continuer à me droguer jusqu'à ce que j'en meure.
Merci.
De rien.
Obrigado.
De nada. Pleasure to meet you, Igor.
Vous avez quel âge, vous, Federico?
I don't know.
Je ne sais pas. 43 ou 44. J'ai arrêté de compter. Il parle français couramment. Il s'appelle Pedro.
Bonjour.
Salut, Pedro.
Igor.
Enchanté. J'ai vécu en France et en Suisse aussi.
D'accord. Combien de temps ?
4 ans en Suisse et 1 an et demi en France.
Mais vous êtes portugais ?
Tout à fait.
Même question, qu'est-ce qui vous amène ici à Médecins du Monde ?
Écoutez, je passais, il y a un quartier qui. On vient acheter de la drogue, du crack et de l'héro. Et puis je connaissais déjà Médecins du Monde. Et puis on échange des seringues, l'alu, ben voilà. Il y a quelque chose que j'ai. Il y en a en Suisse et en France, dans les pharmacies, on peut changer les seringues. Ici, il n'y en a pas. Je connais ici 2 pharmacies qui le font et pas le reste. Et ça, c'est. Voilà, c'est très important.
Vous consommez donc quoi ? Héroïne, cocaïne, les deux ?
Oui. 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 Méthadone.
Ah, vous êtes sous méthadone ?
Oui.
Mais vous prenez quand même de l'héroïne ?
Tout à fait.
La méthadone ne vous a pas permis d'arrêter définitivement l'héroïne ?
Non, non, non.
Mais parce que peut-être que c'est pas assez dosé, peut-être qu'il faut en prendre plus, hein ?
Oui, mais ça c'est un problème parce que, voilà, je l'ai fait avant, il y a quelques années, de prendre la méthadone et des cachets derrière pour réduire l'anxiété. Voilà. Il faut être suivi par des gens capables de nous aider, de parler de nos problèmes, de nous aider vraiment. Parce qu'on a, comme mon pote il disait, ma vie, elle ne me permet pas de faire ça parce qu'il faut
Moi, je me réveille tous les jours, je pense, ouais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver?
Autre question sur la santé, comment vous allez, vous, au niveau de la santé?
C'est aussi une raison que j'ai recommencé à shooter et pas à fumer la crack, parce que j'ai fumé beaucoup de crack et les poumons étaient trop voilà, abîmés avec ça, et je pense que c'était pour ça que j'ai eu ce problème. Je devrais faire un traitement tous les mois, acheter une pompe tous les mois, et je le fais pas. Il y en a voilà, parce que je peux pas, j'ai pas l'argent pour voilà pour faire. Je suis pas suivi par un médecin comme il pouvait, par voilà faire les examens voilà.
Et sida, hépatite, vous connaissez vos statuts par rapport à ça ou...
J'ai rien. Tant que je sais, j'ai rien. La dernière fois que j'ai vu, c'était nickel, quoi. Je sais pas.
Il y a une grosse mortalité chez les toxicomanes ici ou pas? Vous voyez beaucoup de gens partir pour overdose ou maladie ou choses comme ça?
Oui. Et j'ai vu en un mois, deux mois, des gens qu'ils avaient des overdoses comme voilà tous les jours, quoi. Les ambulances, ils arrivaient. J'ai vu des trucs... J'ai jamais vu ça avant, quoi.
Ça vous inquiète, ça vous fait peur?
Ça me fait peur, mais mon comportement, on dirait que j'ai pas peur, parce que je consomme n'importe comment.
Voilà. Ah bah vous êtes addict, quoi.
Oui. Tout à fait. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Pedro, du coup, moi?
Bonne chance.
Bonne chance.
Merci
Pedro. Bon courage. Mais alors justement, Raquel, vous citez toujours le Portugal en exemple concernant sa politique de réduction des risques et le fait que le pays ait dépénalisé les drogues en 2001. Mais vous, quel constat vous faites? Est-ce qu'on peut parler vraiment de modèle concernant le Portugal ou qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un modèle. Comparé aux pays où il n'y a pas de méthadone, où les usagers sont en prison, bien sûr que nous avons un bon modèle. Mais est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que selon la loi, on pourra avoir des salles de consommation. Et il n'y en a qu'une qui a ouvert la semaine dernière à Lisbonne.
Mais ça, c'est quelque chose que vous attendez vraiment?
Oui. Les salles de consommation sont importantes pour que les usagers aient un endroit où boire un café, parler de football, se relaxer et arrêter de penser aux maladies, à la police, à la prison, aux crimes. C'est ça l'importance des salles de consommation.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes au Portugal pour parler de la réduction des risques. Igor Strauss, en écoutant tous les toxicomanes que vous avez rencontrés, dont vous avez recueilli la parole, on se rend compte que malgré tout ce qui était entrepris par le Portugal, eh bien finalement, le compte n'y est pas vraiment.
Oui, il y a encore beaucoup à faire, notamment au niveau de l'aide sociale, au niveau de la recherche pour trouver un produit de substitution au crack, qui manque cruellement, mais qui demande du temps et des moyens. Mais il y a des façons peu coûteuses d'améliorer la situation sanitaire, notamment des usagers de drogue, c'est de reconnaître et de salarier les pères éducateurs. Ce sont souvent d'anciens usagers eux-mêmes qui ont vécu ces situations tragiques et qui connaissent les toxicomanes. Ils sont là pour les conseiller, pour les aider dans leur suivi médical. L'un d'eux m'a raconté par exemple qu'il avait emmené un usager chez le médecin qui voulait lui fixer un rendez-vous ultérieur. Il a dit au médecin qu'on ne pouvait pas fixer un autre rendez-vous parce qu'un toxicomane ne sait jamais à l'avance où il sera et ce qu'il fera. Du coup, le médecin l'a reçu le jour même. Les pères éducateurs sont des témoins, des porte-paroles et de nombreuses associations veulent les mettre en avant.
Et Igor, en ce qui concerne les salles de consommation?
Alors, la première salle de consommation a ouvert à Lisbonne, une semaine avant la conférence. Les mauvaises langues disent que sans la conférence, elle n'aurait peut-être pas vu le jour. Mais João Goulao, le coordinateur national pour la drogue au Portugal, a lui une autre explication.
Maintenant, conséquence tardive de la crise, en fait, on a une population qu'on n'arrive pas à toucher avec les autres approches classiques, soit les équipes de rue, soit les abris. Bon, ils ne s'approchent pas des structures de santé qu'on peut offrir. Et alors, c'est le moment pour trouver un nouveau outil pour rapprocher cette population. C'est pourquoi seulement maintenant a été décidé d'ouvrir des salles de chute à Lisbonne. Et hier, ici, dans cette conférence, le maire de Porto a ouvert la porte à l'installation d'une salle ici à Porto. L'objectif est toujours de proportionner aux utilisateurs une des meilleures conditions de vie. Et même si sa décision est de continuer l'utilisation des drogues, on respecte leur choix. Et dans ce sens, ce qui est prévu dans ces salles de consommation, pas seulement de chute, c'est la possibilité d'utiliser les drogues par voie inhalée ou fumée, de proportionner les outils, les pipes qui amènent des risques s'ils partagent, et surtout d'avoir là des espaces de détente, des espaces de réflexion, des espaces de contact avec le personnel de santé et des réponses sociales, soit d'habitation, soit d'emploi. Ce qui est envisagé, c'est d'avoir un espace accueillant pour ses utilisateurs.
Et pour conclure, un dernier témoignage, Igor Strauss. Vous avez demandé à Sergio Rodriguez, un ancien toxicomane que nous avions entendu au début de votre reportage, ce qu'il pensait de la politique de réduction des risques au Portugal.
It's 50-50.
C'est du 50-50. Je suis content parce que maintenant, si je consomme de la drogue, je n'irai pas en prison. Et ça, c'est important. Mais d'un autre côté, le Portugal n'a toujours pas de salle de consommation, alors qu'on pourrait en faire depuis la loi de 2001. On commence tout juste à réfléchir à la création de ces salles. Je pense qu'après 20 ans, les politiques au Portugal devraient s'asseoir autour d'une table avec des usagers de drogue et les écouter pour faire de nouvelles lois et améliorer les choses pour tous ceux qui sont laissés pour compte. Parce qu'il y a encore de nombreuses difficultés. Par exemple, le temps d'attente pour intégrer le programme de méthadone peut atteindre 6 mois. C'est beaucoup trop, parce que si on n'arrive pas à satisfaire les gens, la première fois qu'ils viennent demander de l'aide, on risque de les perdre.
Thank you.
Avec Igor, juste cette petite précision.
Eh bien oui, comme nous l'avons mentionné un petit peu plus tôt, une salle de shoot a déjà ouvert récemment à Lisbonne.
Merci Igor Strauss pour ce reportage sur la réduction des risques au Portugal. Reportage réalisé par Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des risques psychosociaux, burn-out, harcèlement moral au travail, comment certains agissements ou certains propos dans le cadre professionnel peuvent nuire à la santé physique et morale. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un témoignage à apporter. 33 1 84 22 75 75 ou laissez-nous un message sur notre page Facebook. On se retrouve demain, 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.